Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Génération IA. Merci beaucoup pour vos retours sur le premier épisode. Vraiment, j'ai eu des très bons retours, ça fait chaud au cœur. Bien sûr, quelques petites choses à améliorer, on va essayer de s'améliorer ensemble lors de ces podcasts. Mais franchement, pour un premier épisode, je suis très content. N'hésitez pas évidemment à mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, ben, je vous conseille d'aller voir le premier. On va essayer de faire quelque chose un peu de chronologique, dans le sens où ce second épisode sera un peu la suite du premier. Notamment, on va revenir sur ChatGPT, sur certains aspects où je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas passé assez de temps dessus, ou on les a carrément pas vus. Et puis, ensuite, nous allons explorer les concurrents de ChatGPT. Qui sont-ils et comment les utiliser, dans quel contexte, pourquoi à certains moments certains concurrents sont meilleurs. Ça peut être certains cas d'usage, ça peut être la rapidité ou plein d'autres choses. Je pense que cet épisode va être également très riche parce que des concurrents, il y en a pas mal. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est un gros marché et franchement, ils se tirent tous la bourre pour avoir une sorte de monopole, notamment sur les intégrations du modèle dans des logiciels existants. On peut intégrer un modèle d'intelligence artificielle dans une application. Donc, au lieu d'avoir accès à ce modèle via le chat de ChatGPT, eh bien, on peut très bien intégrer le modèle, par exemple, GPT-4o dans une application existante via l'API. Donc l'API, c'est une interface qui permet d'accéder au modèle ou en déployant directement un modèle open source sur son infrastructure. Par exemple, Doctolib a déployé un modèle open source qui est GPT Whisper API. Donc Whisper, c'est un modèle de speech to text. Et en fait, Doctolib a sorti cette nouvelle feature pour les médecins qui permet de résumer une conversation médicale, une consultation plus précisément, et ensuite d'intégrer le résultat de cette consultation directement dans leur base de données, en faisant aussi par exemple des recommandations de prescription selon les symptômes. Et en fait, comme c'est une conversation médicale, eh bien, il faut respecter la confidentialité des données. Et donc, Doctolib ne pouvait pas utiliser une IA externe via son API, mais a dû déployer son propre modèle sur son infrastructure. Et évidemment, c'est un peu de boulot. Mais voilà pour cet exemple. Comme je l'ai dit, revenons sur ChatGPT. Il se trouve qu'on a passé en revue l'interface et les fonctionnalités de ChatGPT dans l'épisode 1. Or, je vous avais dit à la fin de l'épisode que je n'utilisais pas la fonctionnalité projet et que projet était pour regrouper les conversations. Or, je me suis trompé. L'heure est grave, les amis. Intuitivement, je pensais que projet que je n'utilisais pas regroupait des conversations, mais pas du tout. En fait, la fonctionnalité projet est tout autre. Donc, je me suis créé un projet podcast pour tester. Et en fait, la fonctionnalité projet est comme un chat, mais on peut ajouter des instructions particulières pour orienter ChatGPT, donc comme une sorte de GPT, mais on peut aussi ajouter des fichiers. Et ça, c'est vraiment un point très important. On peut ajouter des fichiers, et à chaque fois qu'on commencera une conversation dans ce projet, eh bien, ChatGPT aura en tête en mémoire tous les fichiers qu'on aura passés. Et ensuite, on peut également retrouver tous nos chats dans ce projet. On peut aussi supprimer des chats du projet. Mais cette fonctionnalité de retrouver dans des fichiers, en fait, ça s'appelle un RAG, c'est-à-dire une génération augmentée de récupération. Il me semble que c'est ça l'acronyme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte du modèle, le contexte, c'est tout ce qu'on peut lui mettre dans le chat. Donc, on peut par exemple, si le fichier est très court, on peut lui copier-coller le texte et lui mettre dans le chat directement, puis poser sa question, par exemple, résume-moi ce texte. Ça, c'est une première façon de passer des fichiers s'ils sont relativement courts, car en fait, la taille du contexte est limitée. On peut, par exemple, copier-coller un texte relativement assez grand, mais au bout d'un moment, il sera coupé parce que la taille du contexte est limitée. Et pour pallier à ce problème, il y a eu une invention qui est donc la génération augmentée de récupération. Les fichiers sont en quelque sorte compressés et ensuite cette compression va être passée en contexte. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Les fichiers vont être vectorisés, donc le texte va être transformé en nombre pour prendre moins de place et ensuite on va faire de même pour le texte d'entrée et trouver les similarités, donc quel nombre se rapproche le plus par rapport au fichier. Donc le but c'est pas de rentrer dans des détails techniques mais plus d'expliquer un petit peu le processus et au moins vous saurez ce que c'est un RAG quand on vous en parlera, donc RAG. En anglais, c'est Retrieved Augmented Generation. Et en français, Génération Augmentée de Récupération. Et c'est un peu, ça a été un peu une révolution également, puisque grâce au RAG, on peut connecter les modèles à des grandes bases de données. Donc, pour des entreprises existantes, imaginez par exemple une entreprise dans le juridique qui a tout un tas de dossiers clients. Eh bien, c'est très utile pour un avocat ou pour un juriste de pouvoir questionner tous ces dossiers clients et de pouvoir retrouver tous ces fichiers. Puisque si notre ChatGPT n'est pas connecté à notre base de données, ben c'est un peu flou au final, c'est un peu des généralités. Et pour certains cas d'usage, on a besoin vraiment de rentrer dans les détails et d'être assez précis. Donc les RAG, c'est la solution pour tout un tas de problèmes comme ceci. Voilà pour les projets. La prochaine fois, je regarderai avant de faire des suppositions. Mais voilà. Et puis également, je voulais revenir sur Sora. Sora, c'est en fait la génération de vidéos par ChatGPT. Et on le voit sur le panneau gauche de l'interface. Alors, Sora, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a des mois quand c'est sorti, parce que Sam Altman et OpenAI ont diffusé sur X des vidéos générées par Sora, et c'est vrai que c'était vraiment très impressionnant. Notamment, et on pouvait demander tout un tas de choses, même par exemple une vue de drone. Donc on peut voir comme une vue de drone qui se rapproche du sol, etc. Toutes ces vidéos ont été assez bluffante de détails et de techniques également. Cependant, depuis lors, on a un peu moins entendu parler de Sora. En tous les cas, ça n'a pas fait le buzz. Je pense que c'est réservé aux utilisateurs de ChatGPT Plus, donc payants. Et les vidéos, c'est vraiment un gros point de l'IA générative parce qu'il y a énormément de cas d'usage vidéo. Et je pense que Hollywood a un peu tremblé quand ils ont vu Sora apparaître, puisqu'en fait, il devient imaginable, envisageable, de créer des films 100% grâce à l'intelligence artificielle, en commençant bien sûr par des courts-métrages, puis plusieurs courts-métrages mis bout à bout, se faisant un long-métrage avec plusieurs scènes. Et oui, donc c'est assez révolutionnaire également la génération vidéo et les cas d'usage, je pense aussi aux réseaux sociaux, aux formats courts, donc les shorts, les reels ou TikTok. On voit de plus en plus de vidéos créées par l'intelligence artificielle, parfois très mal faites d'ailleurs, avec cette voix off de robot un petit peu, parfois mieux fait. En tout cas, il y en a qui tombent dans le panneau. Et parfois, c'est utile, disons-le. La plupart du temps, pour l'instant, c'est assez raté. Mais ça génère du trafic et les gens, en fait, peuvent créer ce genre de vidéos très rapidement. Le processus de création de contenu devient beaucoup plus rapide et fluide. N'importe qui peut le faire. forcément, ça crée beaucoup plus de contenu. Pour l'instant, la plupart sont pas très bons, mais ça a tendance à augmenter et c'est un énorme business, cette génération de vidéos, puisque les réseaux sociaux, c'est là où il y a l'attention de beaucoup de personnes et c'est devenu extrêmement important pour vendre. Et enfin, il y a une dernière fonctionnalité de ChatGPT dont je n'ai pas parlé et qui s'appelle les tâches. Et les tâches, c'est vraiment extrêmement puissant également. En fait, ils ont rajouté ce qu'on appelle des cron jobs. Vous pouvez configurer un programme sur votre ordinateur, par exemple, qui va se lancer à une certaine heure tous les jours, ou tous les deux jours, mais en tout cas, une tâche qui est répétitive. Et ils ont intégré ces tâches répétitives dans ChatGPT, de telle sorte que, par exemple, je vais configurer une tâche à midi tous les jours, et ensuite, ça va automatiquement déclencher un chat dans ChatGPT et m'envoyer le résultat. Donc, j'ai configuré une tâche qui est de m'envoyer un résumé des actualités d'IA tous les jours avec notamment des anecdotes surprenantes. Voilà. Comme ça, je pourrais vous les donner. Et j'ai fait ça hier. Et ma tâche est planifiée, donc je vais recevoir une newsletter de toutes les actualités d'IA tous les jours. Honnêtement, c'est très puissant. Les cas d'usage, j'ai pensé tout de suite à l'actualité. Recevoir une newsletter personnalisée. On peut aussi en profiter pour envoyer cette newsletter. Donc si vous créez une newsletter, vous pouvez très bien planifier une tâche qui va vous faire ce résumé. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à l'envoyer. Donc, en fait, le relire, le peaufiner éventuellement et l'envoyer. C'est devenu extrêmement puissant. Et vous pouvez même, je pense à des outils comme Zapier. Zapier, ça permet de configurer des workflows. Donc, on peut déjà dans Zapier configurer des tâches répétitives sans passer par ChatGPT. Et donc, par exemple, tous les jours, lancer une génération dans ChatGPT sur Zapier, qui va vous trouver en fait toutes les actualités d'IA. Et ensuite, vous pouvez automatiquement configurer l'envoi par mail dans Zapier. Donc, on peut carrément tout automatiser ce processus de newsletter dans Zapier. C'est un outil assez intuitif. Il y en a d'autres, notamment il y en a un qui s'appelle Make, que j'ai jamais utilisé. Mais j'ai déjà utilisé Zapier. Et quand on n'a jamais codé, c'est très utile pour faire des workflows qui s'exécute automatiquement. Après, attention au niveau du pricing, ça peut vite dépasser les quotas gratuits. Donc, c'est un peu comme tous ces outils, très utiles, mais attention au pricing. Si vous avez des exemples de tâches, eh bien, faites-moi savoir les tâches que vous utilisez dans votre quotidien, si jamais vous en utilisez. Je reviendrai dessus plus tard et on pourra voir les meilleurs cas d'usage ensemble. Donc, voilà pour les dernières fonctionnalités de ChatGPT que je n'ai pas passées en revue dans l'épisode 1. Et désormais, on va pouvoir enfin voir les concurrents de ChatGPT et comment les utiliser. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, il y a pas mal de concurrents, mais on va seulement voir les meilleurs parce que bon, il y en a qui ont un peu raté également. On va prendre un exemple. Le concurrent numéro 1, on va dire, un concurrent très important, bon, il y en a plusieurs qui sont dans le top, mais je pense à Claude, qui est le modèle de Anthropic. Anthropic, c'est un concurrent de OpenAI qui a été créé par un scientifique qui s'appelle Dario Amodei, donc je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais j'ai eu la chance d'assister à une session de questions-réponses avec lui à Station F à Paris. Et ce mec est assez hallucinant. C'est un scientifique, un peu neuroscientifique, on va dire, dans le sens où il s'est intéressé plutôt à la biologie du cerveau au départ. Il me semble que c'est pas forcément un informaticien de base. Je peux me tromper, mais que j'ai en tête. Son profil est vraiment intéressant. Et franchement, ce que fait Claude, c'est hyper intéressant. Déjà, pour commencer, Claude a fait un partenariat avec Amazon parce que vous savez que toutes ces entreprises d'IA ont besoin de beaucoup de serveurs et de ressources. Et donc, Amazon a notamment AWS, Amazon Web Services, et met à disposition ses services à Anthropic pour ses modèles, pour les héberger et pour qu'ils soient accessibles via API notamment, et même dans le chat. Alors que OpenAI a fait un partenariat, eux, avec Microsoft et Microsoft Azure, qui est en gros la partie de Microsoft qui gère toute la partie serveur. Donc il y a un peu cette concurrence sous-jacente Microsoft-Amazon à travers OpenAI et Anthropic. C'est assez intéressant de voir que les gros hébergeurs, ils ont un peu leur entreprise d'IA dans leur sphère. Il faut avoir ça en tête. C'est un peu la course entre elles. Et Anthropic, c'est pour moi en fait les meilleurs modèles pour deux choses, coder et écrire. Donc, notamment, en fait, le mode écriture pour commencer. Le mode écriture est vraiment cool parce qu'on peut créer un style d'écriture. Il se trouve que c'est pas vraiment mes cas d'usage à moi parce que je fais pas beaucoup de copywriting ou de contenu écrit, mais on peut configurer des styles d'écriture. Et on peut vraiment les orienter, que ce soit concis, que ce soit explicatif, formel. Et on peut lui dire pourquoi, en fait, on configure. Donc, ça peut être, par exemple, un email, un article de blog. Et on peut lui donner des exemples de telle sorte qu'on peut créer notre style d'écriture. Donc, si vous avez un blog, si vous créez du contenu sur LinkedIn, si vous faites des contenus écrits, eh bien, utilisez Claude de Anthropic. Vous pouvez tester dans le chat tous ces modes d'écriture et franchement, ils sont au top. Si vous configurez bien votre modèle d'écriture, vous verrez que votre contenu va être hyper qualitatif. J'aime beaucoup cette anecdote de Oussama Hamar qui raconte dans un podcast qu'il écrit en fait tous ses contenus LinkedIn avec Claude depuis des mois. Et ça passe crème dans le sens où personne lui dit en gros qu'il a créé son contenu avec l'IA parce que ça a l'air hyper authentique. Et effectivement, il a très bien configuré son modèle Claude pour lui faire du contenu avec des exemples concrets d'anciens posts à lui afin de créer le nouveau avec le même style. Et la seule fois où il a voulu écrire un article lui-même sans passer par Claude, après des mois avoir écrit ses articles avec Claude, en fait, c'est le seul article où les gens lui ont dit « Ouais, ton contenu, c'est de l'IA, ça se voit, etc. » Donc, il devait avoir un peu les boules parce que la seule fois où il a écrit lui-même, eh bien, c'est la seule fois où les gens lui ont reproché que c'était une IA. Donc, faudrait voir quel poste c'était d'ailleurs. Mais Claude marche très très bien pour l'écriture et pour le code, eh bien, n'en parlons pas, franchement. Claude 3.5 Sonnet comme modèle, ça a été vraiment une révolution au niveau du code. Ça a été un peu une bascule, puisque à partir de ce moment-là, en fait, on pouvait coder de façon très fluide avec l'intelligence artificielle, alors qu'avant, il y avait quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup de digressions. Mais en fait, maintenant, il faut savoir qu'en codant, on a des environnements de développement qui sont intégrés avec des modèles. Et on peut directement demander dans l'environnement de développement de nous créer du code en choisissant quel modèle on utilise. Donc on peut avoir le choix, on peut choisir GPT, Claude, etc. Et depuis qu'il y avait Claude 3.5, eh bien c'est là où je vous disais que j'écrivais beaucoup moins de code moi-même, puisque c'est à partir de là où le code était suffisamment bon pour remplacer un développeur entre junior et senior, on va dire un développeur moyen. Pour écrire du code, c'est très puissant. Depuis, ils ont encore sorti d'autres modèles comme Claude 3.7 Sonnet. Et il y en a un autre qui est plus rapide pour les tâches quotidiennes. Ils n'ont pas 36 modèles. Claude, c'est assez clair, honnêtement. Et ils sont assez bien nommés parce que les modèles de OpenAI, ils sont un peu nommés n'importe comment dans le sens où un coup, vous avez un qui s'appelle O3, un coup, vous avez un qui s'appelle O1, O1 Mini. Il n'y a pas forcément d'ordre, en fait. Par exemple, là, ils ont sorti GPT 4.1, alors qu'il y a déjà un 4.5 qui existe. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre croissant dans le nommage des modèles, ce qui fait qu'à la fin, c'est vraiment le bazar. Et c'est justement le CEO de Claude, donc Dario Amodei, qui a dit que fin 2025, ben, il y aura quasiment plus de code écrit par les humains. Voilà pour Claude. Honnêtement, après, l'interface de Claude, elle est très similaire à ChatGPT, donc je ne vais pas du tout passer en revue tout ça. Mais essayez juste pour les cas d'usage que je vous ai dit, écriture et code, vous pouvez tester Claude, vous n'allez pas être déçu. Pour le reste, on peut se cantonner à ChatGPT, c'est très bien. Parce qu'après, vous savez, quand on commence à utiliser plusieurs modèles différents, il faut un abonnement sur chaque. Et ça devient assez lourd d'avoir un abonnement sur chaque modèle. En fait, je crois que j'avais vu qu'il y avait des entreprises qui avaient créé des interfaces où on pouvait s'abonner seulement une fois à cette entreprise et utiliser n'importe quel modèle dans le chat. Mais moi, j'ai pas vraiment envie d'utiliser ça parce que chaque interface est vraiment optimisée par rapport à chaque entreprise et chaque modèle. Par exemple, dans ChatGPT, comme j'ai dit, vous avez les tâches, les GPT, etc. Et ça, on l'a que dans l'interface de ChatGPT. Si on peut changer de modèle, ben Claude ne fait pas des GPT. Je préfère utiliser vraiment l'interface de l'entreprise qui a créé le modèle, puisque c'est une interface qui est optimisée dans l'utilisation de ce modèle. Mais en tout cas, ce concept de créer une interface pour pouvoir changer de modèle et avoir un seul abonnement, je la trouve intéressante. C'est un peu le même concept que, par exemple, avoir un seul abonnement et vous avez Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Ça pourrait marcher, mais après, il y a pas mal de problèmes. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Il doit y avoir pas mal de problèmes juridiques. Je crois qu'il y avait une start-up en France qui faisait ça, où on pouvait s'abonner et avoir accès à plusieurs fournisseurs de vidéos. Mais il me semble que c'était dans la limite de la légalité. Et qu'ils allaient se taper un procès par Netflix, donc bon courage à eux. Revenons sur nos modèles. Le deuxième qu'on va voir ensemble, c'est le modèle de Google. Google qui est quand même un poids lourd dans la tech. Et Google, c'est eux qui ont créé les Transformers qui sont à la base de la révolution de l'IA générative. Donc c'est eux qui ont créé ce papier de recherche sur les Transformers qui a permis l'IA générative. Et pourtant, c'est pas du tout eux qui ont révolutionné le milieu, qui ont exploité en fait ce papier. C'est OpenAI qui ont pris l'avantage. Mais Google, ils ont sabordé leur avantage concurrentiel totalement, alors que sur le papier, ils avaient tout. Ils ont inventé la technologie, ils ont un budget illimité, ils ont les meilleurs chercheurs et les meilleurs ingénieurs. Et pourtant, ils ont raté ça. Comme quoi, parfois, les logiques d'entreprise font que, en fait, vous avez de la friction. Et en fait, vous pouvez totalement, par exemple, en ayant beaucoup trop de réunions, en voulant prouver des choses. En fait, tous les modèles d'organisation humaine avec le management peut être un frein à l'innovation. Et vous pouvez avoir des startups avec très peu de gens au début qui disruptent totalement un acteur majeur. Alors que sur le papier, en fait, ça n'a aucun sens. L'acteur majeur a tout pour réussir. Mais en entreprise, vous avez des logiques d'ego, vous avez des logiques humaines, des frictions qui font que parfois, ça ne fonctionne pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe à Google, qui avait tout pour réussir et qui ont vraiment foiré. Mais depuis, ils se sont un petit peu rattrapés. Et en fait, quand ChatGPT est sorti, bah évidemment, ils avaient tout, donc ils se sont dit, on va faire notre modèle également. Puisqu'on est destiné à ça, on a les ressources, on a les serveurs, on a l'argent, on a les développeurs. Et ce qui est assez fascinant, c'est que vous avez un des fondateurs, qui est Sergey Brin, je crois, qui s'est lui-même remis à coder pour créer les modèles de Google Gemini, ou Gemini en français, vous le prononcez comme vous voulez. Mais le mec s'est remis à coder, on pouvait voir sur GitHub, donc c'est le gestionnaire de code open source, que Sergey Brin commençait à avoir une activité tous les jours, à des heures, la nuit, le jour. Le fondateur de Google, qui est multimilliardaire, s'est littéralement remis à coder en panique pour pouvoir rattraper OpenAI. Donc c'est assez fascinant de voir ça. Et depuis, bon, ils ont fait beaucoup de pubs. C'est, je crois, les seuls que j'ai vus à la télé à faire la pub de leur modèle Gemini, à la télé française, donc j'imagine également aux États-Unis et dans d'autres pays. Franchement, je suis pas sûr que la pub télévisée, ce soit la meilleure pour faire la pub de modèle d'IA. Bien que c'est vrai que OpenAI, ils ont fait une pub au Super Bowl aux États-Unis, qui était vraiment d'ailleurs, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je l'ai trouvé hyper hyper intéressante. Ils ont retracé l'histoire de l'humanité en 30 secondes avec vraiment des visuels qui ressemblent à ChatGPT, donc noir et blanc, etc. Je vous invite à regarder cette pub d'OpenAI qui est passée au Super Bowl. Je pense pas que ce soit la pub qui ait fait le plus de taux de conversion. C'est pas une pub qui était orientée vente, mais plutôt une pub qui est orientée image de marque. Un peu comme les pubs Apple. La pub Apple, d'ailleurs, qui avait fait également au Super Bowl contre IBM, qui est la plus grande publicité de l'histoire, en fait, qui est reconnue comme telle. Je vous invite également à la voir. C'est un peu pareil. C'était une pub vraiment qui décrit l'image de marque, l'identité d'Apple. Et on voit que OpenAI se sont inspirés de ça, même si c'est pas vraiment le même scénario du tout. Mais franchement, elle est très réussie. Mais revenons sur Gemini, qui eux ont fait des pubs très pratiques dans le sens où voici notre IA, voici ce qu'elle fait, des cas d'usage concrets où vous aviez une personne qui disait d'accord Gemini, dis-moi ça, fais-moi ceci. Donc ils en ont pas mal fait la pub pour rattraper leur retard. Ils l'ont intégré dans certains outils à eux comme Firebase, qui est leur gestionnaire de base de données en ligne. Ils ont la distribution, c'est un peu comme Microsoft avec Microsoft Copilot, dans le sens où Microsoft a Microsoft Teams, Outlook pour les emails, et puis évidemment le stockage, les serveurs. Bah, Microsoft, ils ont pu distribuer facilement leur Microsoft Copilot à tout le monde, même si c'était pas forcément le meilleur outil de base, parce qu'ils avaient les canaux de distribution. Eh bien, Google, c'est pareil. Ils ont les recherches. Ils ont Google Chrome, leur navigateur. Ils ont Google Cloud, leur serveur, avec Google Cloud Console, Firebase. Donc, ils peuvent distribuer Gemini. Ils ont Android aussi, qui appartient à Google. Ils ont les Google Phone, Google Pixel, etc. Donc, bref, ils ont plein de canaux de distribution. Contrairement par exemple à Anthropic ou OpenAI, bien que maintenant OpenAI, les modèles GPT ont été intégrés dans les iPhones pour Apple Intelligence, qui n'est toujours pas sorti en Europe, je crois. Peut-être sur les iPhone 16, mais en tout cas, il y avait des régulations européennes comme quoi, en fait, c'était impossible de sortir la fonctionnalité Apple Intelligence en Europe. Et moi, je l'attends avec impatience quand même. C'est assez surprenant que Apple ait choisi OpenAI et ne fait pas leur propre modèle, contrairement à Google, alors qu'Apple avait également les moyens de le faire. Mais ils sont passés par OpenAI. Et étant donné qu'OpenAI a un partenariat avec Microsoft, qui est l'ennemi d'Apple, ça a été très surprenant qu'Apple choisisse OpenAI. S'il n'y avait pas ce partenariat avec Microsoft, ça m'aurait beaucoup moins surpris parce qu'ils ont quand même la même image de marque. Des entreprises très disruptives, très design, et avec une belle, forte image de marque. Mais après, Apple a déployé les modèles d'OpenAI directement dans leur smartphone afin que les IA run en local et non pas via le cloud de Microsoft parce qu'il y aurait des gros problèmes de confidentialité et de sécurité. Et on sait qu'Apple est quand même très à cheval sur la confidentialité des données de ses utilisateurs. Et c'est tant mieux. Et du coup, ils ont carrément travaillé à OpenAI pour déployer leur modèle dans les iPhones. Et j'imagine que Google a pu faire de même avec Gemini dans les Google Phone. Il paraît que c'est pas mal. Je crois qu'il y a des fonctionnalités d'IA assez sympas sur les téléphones Android. J'en ai pas. Moi, j'ai un iPhone, donc j'ai pas testé en détail. Mais on pourrait voir ça dans un prochain épisode, éventuellement, si c'est un sujet intéressant. Mais revenons sur Gemini. Donc, Gemini... Les modèles Gemini, honnêtement, via le chat, c'est un peu nul. Utiliser ChatGPT largement. Après, ça peut être utile dans certains cas. Déjà, quand ils ont sorti Gemini, ils ont fait scandale parce que leur IA était très woke. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a un énorme débat sur le wokisme. Et notamment, Gemini, il y a eu un gros problème. C'est que quand tu demandais qui étaient les pères fondateurs des États-Unis, donc ils étaient quatre, et en fait, il les représentait en tant que président noir. Donc, ce qui est historiquement faux, ils n'étaient pas noirs, mais Gemini les représentait comme tels. Et il y a des conservateurs qui se sont emparés du sujet, qui ont dit, voilà, votre IA, elle est woke. Ça a un peu fait un flop parce que c'est quand même une contre-vérité historique. Donc le modèle a sorti des contre-vérités, des hallucinations, on pourrait dire. Mais depuis, ils ont bien corrigé le tir. Leur IA, elle est devenue très puissante, honnêtement. Et elle performe super bien sur tous les benchmarks. Donc, c'est-à-dire, les benchmarks, c'est des tests. Les benchmarks sont créés à partir, par exemple, vous avez des questions créées par des humains et on attend une certaine réponse à ces questions. Si le modèle réussit à fournir ses réponses, eh bien, il gagne un point. Sinon, il gagne 0 point. Et à la fin, on compte les points. Pour vulgariser, hein, c'est un peu plus compliqué, mais les benchmarks sont créés par des humains et on teste les modèles pour voir leur performance sur ces benchmarks. C'est bien sûr à prendre avec des pincettes parce que du coup, tous ces modèles, ils vont être entraînés pour être performants sur ces benchmarks. Mais si vous posez une question qui n'est pas dedans, bah, ça se trouve, le modèle sera nul alors qu'il a été performant sur les benchmarks. Ou vice-versa. Parfois, il y a des modèles moins performants sur les benchmarks, mais qui marchent bien dans d'autres cas d'usage. Donc, il y a tout un débat. C'est pas, tout ce qui est benchmark, c'est pas parfait pour estimer la qualité d'un modèle, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a pas d'autres moyens de le faire. Donc, Gemini était très performant sur ces benchmarks récemment. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de progrès. Et notamment, ils ont fait le buzz parce que ils ont étendu leur contexte, leur fenêtre de contexte de leur modèle à plus d'1 million de tokens. C'est-à-dire qu'on peut mettre plus d'1 million de mots, bah, dans le chat. C'est-à-dire qu'on peut utiliser leur modèle sur, avec des contextes très grands et dans certains cas particuliers. C'est hyper utile. On n'a pas besoin de compresser des fichiers pour faire un RAG. On peut directement utiliser le contexte. Donc là-dessus, ils ont été très forts. Et je pense que c'est grâce notamment à leur pôle de recherche qu'ils ont pu étendre leur fenêtre de contexte. Un peu comme l'invention des Transformers, où là, ils étaient avant-gardistes. Et cette fois-ci, bah, ils ont intégré directement cette innovation dans leur modèle. Ils se sont pas fait avoir comme la première fois. Maintenant, voilà. Via l'API, ça peut être très utile, très intéressant, pardon, d'utiliser Gemini. Mais via le chat, leur interface, elle n'est pas top. Toutes les interfaces de Google, en général, si vous faites des pubs dans Google, c'est un peu le bazar. Si vous utilisez Google pour même la documentation des modèles, après, bon, j'utilise Safari comme navigateur, donc c'est pas du tout optimisé pour Safari. Je pense que c'est peut-être fait exprès pour qu'en gros on prenne Google Chrome. C'est dommage. Ça peut être intéressant dans certains cas d'usage avec des grands contextes, mais sinon, cantonnez-vous à ChatGPT. Je vais quand même suivre de près l'avancée de Gemini parce qu'ils rattrapent vraiment leur retard en termes de performance. Félicitations à eux, ils font vraiment du bon boulot récemment. Et c'est vraiment là qu'on voit que la concurrence, c'est quand même hyper important pour le progrès et l'innovation. S'il n'y avait jamais eu de ChatGPT, peut-être que Google n'aurait jamais fait Gemini. Parce que là, ils rattrapent leur retard. Et Gemini est ultra puissant, donc la concurrence tire tout le monde vers le haut. Il y a une sorte d'émulsion en ce moment dans le milieu de l'IA générative. Et c'est vraiment top que tous les mois, toutes les semaines, il y ait de nouveaux modèles qui sortent, des nouvelles innovations. Parfois ça réussit, parfois ça réussit pas. Mais ça tire tout le monde vers le haut. Et ça, c'est vraiment sain pour les utilisateurs d'avoir autant d'acteurs. Ensuite, passons au modèle suivant et à l'entreprise suivante qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'ils sont français. C'est Mistral, Mistral AI, qui est une entreprise qui a été créée par trois polytechniciens, donc des mecs hyper talentueux, qui a pour CEO Arthur Mensch, qui est un CEO assez talentueux. Mais il faut pas oublier les deux autres. Alors je connais pas leur nom par cœur. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Guillaume d'ailleurs, et qui sont hyper techniques et qui ont le rôle de CTO. Les deux autres, c'est vraiment ceux qui font toute la recherche et qui sont très bons techniquement. Et vous avez Arthur Mensch, qui est également bon techniquement, puisqu'il est polytechnicien, mais qui a plus pris le côté CEO, sales, et qui est vraiment le visage de l'entreprise, qui fait des radios, qui fait des télés et des interviews. Mistral se sont concentrés au début pour faire des modèles open source. C'est un peu les premiers avec Meta à avoir fait des modèles open source. Et donc, ils ont permis à toute une communauté de développeurs open source d'intégrer ces modèles dans leurs infrastructures et de les utiliser, et notamment de les utiliser en mode hors ligne avec des outils comme Ollama, qui permettent en fait de télécharger des modèles sur son PC. Et moi, j'ai téléchargé par exemple un modèle de Mistral que je peux utiliser dans l'avion. Donc, alors que je peux jamais utiliser ChatGPT dans l'avion, je n'ai pas de connexion. Mais je peux utiliser dans mon terminal des modèles open source comme Mistral ou Llama. Donc c'est assez sympa. Après, voilà, honnêtement, dans la vie du quotidien, c'est vraiment très rare que j'utilise des modèles open source en local. Maintenant, je sais qu'il y a une grosse communauté de l'open source qui aime beaucoup ça. Et franchement, il y a des raisons, parce que c'est assez fascinant de faire du développement open source. Franchement, c'est une sorte de philanthropie. On met à disposition à tout le monde son travail, et tout le monde peut utiliser gratuitement en quelque sorte votre travail. Ça permet à vraiment de progresser très rapidement. C'est un peu l'open source qui permet à tout le monde de progresser. Et je sais que en France, on a un pays où on est très défenseur de l'open source. C'est peut-être le côté social de la France, de partager ces modèles. Mais Mistral en a fait partie. Vous avez également l'entreprise Hugging Face, qui est plus sur l'hébergement de modèles, mais qui est une top entreprise de l'intelligence artificielle et qui a été également fondée par des Français et que je salue. C'est une très belle boîte, Hugging Face. Et vous avez également des gens qui travaillent dans des grandes entreprises d'IA comme Yann LeCun, qui est le vice-président de Meta, l'entreprise qui gère Facebook, Instagram. Et Yann LeCun, qui est à la tête du pôle intelligence artificielle de Meta, qui est, je crois, le chercheur en IA le plus connu, ou l'un des plus connus au monde, et l'un des plus émérites, eh bien, Yann LeCun est également un défenseur de l'open source, et c'est pour cela que Meta a mis ses modèles en open source. Nous, en France, on aime bien les modèles open source. Mistral représente très bien ce schéma de pensée, et ils sont assez forts. Honnêtement, leurs modèles sont très bien. Cependant, j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs mois où ils n'ont pas sorti vraiment de modèle game changer, contrairement à avant, où ils étaient dans le top 10, où ils avaient, je crois, deux ou trois modèles dans le top 10 en termes de performance, donc vraiment en termes de résultats, de qualité. Mais là, ça fait plusieurs mois où ils n'ont pas vraiment sorti de très très bons modèles en termes de qualité. En revanche, ils se sont pas mal concentrés sur la rapidité. Je ne sais pas si vous avez déjà testé l'application Mistral. Je vous conseille de la télécharger. Elle était top 1 productivité à un moment, quand elle est sortie. Mais au niveau de la rapidité d'inférence, c'est assez impressionnant. Vous posez une question, et là, bam! Le truc, qui vous répond, mais même pas 100 millisecondes. Je ne sais pas, franchement, c'est très très rapide. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inférence. C'est le temps de réponse, mais c'est limite trop rapide en fait. En fait, je ne sais pas s'ils ont voulu être hyper rapides. Alors, pour tout ce qui est API et cas d'utilisation en entreprise et automatisation, c'est génial que ce soit hyper rapide. Par contre, en termes de chat, en fait, par exemple, quand ChatGPT vous répond, c'est un peu du streaming, c'est-à-dire que vous allez voir les mots apparaître un à un dans le chat. En gros, le résultat se construit. Et lorsqu'il se construit, vous pouvez commencer à lire la première phrase alors que la dernière phrase n'a toujours pas été générée. Donc l'utilisateur ne perd pas de temps parce qu'il se met déjà à lire. Au final, ça pose pas énormément de problèmes si le temps de réponse est un tout petit peu long. Alors que dans Mistral, ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps en fait de lire les mots qui apparaissent. Et donc vous avez pas votre gros bloc qui apparaît, votre gros pavé. Donc je sais pas honnêtement si c'est si utile. En tout cas, moi personnellement, je j'ai pas vraiment accroché. Je trouve ça cool que ce soit quand même hyper rapide. Mais en termes de cas d'utilisation, des fois je commence à lire et en fait ça va tellement vite que j'arrive pas. Donc je dois reprendre tout bloc. Certainement que s'ils ont fait ça, c'est que dans leur cas d'usage, les entreprises avec lesquelles ils collaborent, etc., avaient certainement besoin de rapidité et c'est top. Ils sont très forts. Maintenant, ben, ce serait pas mal qu'ils puissent rattraper un peu le retard qu'ils ont pris ces derniers mois sur les meilleurs modèles de Claude, de Anthropic, pardon, OpenAI et Google, afin que ben, ils se resituent dans les top top modèles. Après voilà, je vais me renseigner quand même sur Mistral, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé leurs modèles. grande fierté française quand même d'avoir cette entreprise qui a réussi à disrupter OpenAI, qui a mis en difficulté OpenAI et qui, avec des ressources mais 1000 fois moindres, même si maintenant ils ont levé des centaines de millions, il faut savoir que Mistral avait des ressources largement moindres et ils ont quand même réussi à faire de très très belles choses. Comme quoi, par exemple, c'est pas forcément le montant d'argent disponible qui permet de faire les meilleures choses. On l'a vu avec Google qui a raté ce virage. Et on l'a vu également avec DeepSeek, le chinois, qui lui aussi est un modèle open source et qui ont vraiment, vraiment fait beaucoup de bruit, DeepSeek, parce qu'ils ont sorti leur modèle open source et ils avaient des meilleures performances que ChatGPT. DeepSeek, ils ont carrément créé une nouvelle architecture. Ils ont sorti leur modèle récemment. Pareil, c'est des chercheurs chinois qui n'avaient pas énormément de ressources. Alors, il y en a qui ont dit qu'en fait, le Parti communiste chinois, les entreprises leur avaient donné beaucoup de ressources, mais qu'en gros, ils font genre, on est juste des petits chercheurs indépendants. Maintenant, je crois que ça a été un peu démenti. C'est vraiment, ils ont vraiment pas eu beaucoup de ressources. C'est plutôt les entreprises comme Alibaba qui vont sortir leur modèle, qui les ont déjà sortis, et qui sont assez puissants d'ailleurs, qui eux ont beaucoup de ressources. Mais DeepSeek, eux, leur particularité, c'est que ils avaient une sorte de nouvelle architecture et ils étaient très forts. Ils avaient des résultats incroyables. Mais le truc, c'est que ils étaient bridés. Ils étaient bridés parce que quand tu leur posais des questions politiques un peu sensibles et notamment dès que ça touchait au Parti communiste chinois, ils appliquaient des filtres. Et c'était assez flagrant parce qu'en gros, ils commençaient à générer une réponse. Et il y avait un filtre, mais un filtre post-inférence, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils appliquaient ce filtre après la réponse, donc ils commençaient à générer une réponse, et d'un coup, paf, ça changeait totalement, ils disaient « Non, je ne peux pas répondre à cette question, ce n'est pas dans mes sphères de connaissances. » Donc c'était assez flagrant, les filtres, et je vous avoue que c'est assez gênant. Vous n'avez pas envie de parler à une IA qui est totalement filtrée, en fait. Vous avez juste envie qu'elle soit plutôt sincère, plutôt authentique, et qu'elle vous dise des choses qui se rapprochent des faits et de la vérité. Et à partir du moment où c'est filtré, j'ai juste testé DeepSeek, mais je suis pas vraiment rentré dans le train DeepSeek. Par contre, il faut remercier DeepSeek parce que c'est grâce à eux que, du coup, des entreprises comme OpenAI ont baissé le coût de leur modèle. Puisque, comme il y avait cette IA open source chinoise qu'on pouvait déployer sur nos propres serveurs, etc., qui était gratuite car open source et qui était très puissante et performante, OpenAI s'est dit, on va baisser le coût de nos modèles parce que du coup, les gens, sinon, ils vont faire le switch et ils vont passer sur DeepSeek au lieu de continuer d'utiliser nos modèles GPT. Donc, DeepSeek a permis de baisser le coût des modèles d'IA. Donc, merci à eux, honnêtement, parce que moi, j'utilise pas mal de modèles d'IA dans mes applications. Et le coût de l'IA, en fait, c'est vraiment un problème. C'est un problème et c'est un problème sur certains usages. Après, il aura tendance à baisser, donc c'est toujours intéressant de construire par-dessus ces modèles, puisque dans le futur, on va augmenter nos marges. Donc merci à DeepSeek pour ça. Ensuite, on va voir, honnêtement, il en reste plus beaucoup dans la liste, là. Il y a le Llama de Facebook et Meta. Llama, c'est un peu l'équivalent de Mistral, il était open source, assez performant, et maintenant, d'ailleurs, Meta vient de sortir son application Meta AI. Et ils ont commencé à faire une sorte de réseau social dessus. J'ai vu Mark Zuckerberg qui en parlait sur Instagram. On va voir ce que ça va donner. Meta AI, mais honnêtement, Meta, ils sont très forts. Moi, je trouve Mark Zuckerberg, il est très, très fort. Et franchement, ce qu'ils font avec Instagram, par exemple, c'est impressionnant. C'est vraiment une application incroyable et qui fonctionne super bien. Ils concurrencent TikTok avec leur réel. Ils sont très forts au niveau de leurs features. Ils en font pas trop non plus. Et pareil pour WhatsApp, je trouve que WhatsApp, ils font beaucoup de progrès. WhatsApp, c'est une messagerie qui est beaucoup utilisée par les gens en dehors des États-Unis. Si vous utilisez WhatsApp aux États-Unis, c'est un peu mal vu, c'est un peu une mauvaise image. Et en gros, c'est que vous êtes un immigré, quoi. Et que vous voulez communiquer avec votre famille à l'étranger qui, eux, utilisent WhatsApp. WhatsApp marche beaucoup en dehors des États-Unis, c'est marrant. Que vous ayez ces niches-là qui se créent. Mais WhatsApp, oui, c'est très fort, très utilisé, le mode vocal pour communiquer. Et là, ils ont sorti Meta AI, donc on va voir ce que ça va donner. On n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça pour l'instant, honnêtement. Donc vous pouvez la télécharger et tester. Je vais peut-être le faire si j'ai le temps. Mais voilà, ils ont aussi intégré, j'ai vu de l'IA un peu sur Instagram, vous pouvez poser une question, mais moi j'aime pas trop ça, je trouve que c'est pas vraiment approprié de poser des questions à une IA sur Instagram dans vos messages privés. Mes messages privés, c'est plus pour communiquer avec mes amis. Et c'est un peu comme Snapchat, ils ont fait Snapchat IA où vous pouvez poser des questions, mais franchement, je vois pas trop l'intérêt par rapport à un chat GPT. Peut-être pour les gens qui utilisent vraiment beaucoup Snapchat et qui veulent tout centraliser. Pareil, vous avez XAI qui est l'entreprise d'Elon Musk qui là, bon, c'est pas mal. C'est assez intéressant de voir XAI parce que Elon Musk, on a dit qu'il, dans l'épisode 1 qu'il avait participé à la création de OpenAI. Et Elon Musk, il voulait créer OpenAI open source parce que lui, il pense que c'est vraiment un grand danger l'intelligence artificielle. Et la mission de OpenIA, c'était de faire des modèles open source sécurisés qui bénéficient à toute l'humanité. Vous savez, il a un peu cette vision, faut que j'emmène l'humanité sur Mars. Eh bien, c'était pareil pour les modèles open source. Il faut qu'ils bénéficient à l'humanité. Donc, on va créer OpenAI. Or, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, ça a un peu dérapé. Et il a créé xAI. Qui est donc sa propre entreprise d'intelligence artificielle générative et qui fait des modèles qui s'appellent Grok, G-R-O-K, qui sont très puissants. Elon Musk, c'est vraiment un mec, quand il fait une entreprise en général, Tesla, SpaceX, il fait des trucs vraiment pas mal. Donc, à ne surtout pas sous-estimer. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont créé un énorme data center aux États-Unis. Et donc, pour ce data center, ils avaient besoin de carte graphique de Nvidia pour entraîner leur modèle. Nvidia, c'est vraiment le leader dans les cartes graphiques pour générer de la puissance de calcul pour entraîner les modèles. C'est une entreprise dont la valorisation a explosé. Et le CEO de Nvidia a expliqué qu'ils n'avaient jamais vu ça. xAI a créé ce data center en 19 jours. Quand je dis créer, c'est-à-dire mettre en place toutes les cartes graphiques, le réseau, les connecter. En fait, c'est un boulot énorme, que ce soit au niveau hardware, avec la mise en place physique des serveurs, ou software, avec tout ce qui est connectivité des serveurs. Ils ont fait un boulot énorme. En fait, PDG de Nvidia, qui a un profil hyper intéressant, Jensen Huang, qui est taïwanais, et qui travaillait en tant que nettoyeur avant, créer Nvidia, donc c'est vraiment un parcours de ouf. Eh bien, Jensen Huang a dit qu'en gros, normalement, ça prenait peut-être un an ou deux de créer un data center comme ça. XAI l'a fait en 19 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'exécution de Elon Musk et de ses équipes, mais Elon Musk, pour moi, c'est vraiment un mec qui est excellent dans l'exécution, quitte à virer des gens sur le passage, quitte à être intransigeant avec ses équipes. On aime ça ou on n'aime pas ça, mais il faut quand même souligner le fait que ça fonctionne et que en exécution il est extrêmement fort, et c'est pour ça qu'avec des entreprises comme SpaceX, l'exécution est primordiale parce qu'il faut optimiser tous les coûts, et là ils réutilisent maintenant leur lanceur. Et bien toute cette exécution pour xAI a permis de créer ce data center en 19 jours, et en fait ils ont rattrapé une grande partie de leur retard. Ils avaient plusieurs années de retard sur OpenAI, et là leurs modèles Grok sont intégrés à Twitter ou X, maintenant ça s'appelle X et plus Twitter. Le Grok 3 est vraiment puissant. Ils ont le mode Deep Research que je vous conseille, qui franchement concurrence le mode Deep Research de ChatGPT ou de Perplexity. Ils ont le mode image, qui est pas mal et qui reste encore à améliorer, mais franchement Grok 3 c'est vraiment pas mal. Et j'ai par exemple sur un projet, j'étais bloqué avec les modèles Claude 3.5 Sonnet dans mon code et dans ma logique, alors que je pensais que c'était les meilleurs modèles. Et puis j'ai demandé à Grok de m'expliquer, et Grok a trouvé la solution à des problèmes où j'étais vraiment bloqué. Et c'est là que je me suis dit, ouais, franchement, le mode raisonnement de Grok, il est très puissant. Donc Grok, je vous conseille de l'utiliser plutôt pour des problèmes avancés, des problèmes complexes. Sinon, pour le reste, ChatGPT fait déjà tout très bien. Et ça reste à surveiller, Grok, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un autre modèle. Et je pense que Ils sont en train de travailler sur des modèles très très puissants. Je crois que j'avais vu certains posts de Elon Musk qui disaient que Grok était en train de travailler sur des modèles super puissants. Donc à surveiller. Je crois qu'ils ont ajouté Grok dans certains modèles dans certains environnements de développement comme Cursor, dont je vous parlerai bientôt. Cursor, c'est vraiment les environnements de développement qui permettent maintenant de multiplier sa productivité par 10 pour des développeurs. Et j'ai montré ça à un ami qui n'avait jamais codé de sa vie. Et je lui ai expliqué Cursor. Il a créé plusieurs applications tout seul. Alors bien sûr, il y avait des points de blocage et tout, mais franchement, c'était vraiment très impressionnant. Et depuis, il s'amuse beaucoup avec. Donc, je vous expliquerai Cursor et en gros l'avenir du code, comment créer des applications simplement, même si vous n'avez jamais fait une seule ligne de code. Je pense que ce sera le sujet d'un prochain épisode. Mais j'aimerais finir avec les concurrents de ChatGPT sur une petite pointe d'ironie, une petite touche humoristique. En France, on aime bien tout ce qui est public, alors que je pense honnêtement que les meilleurs acteurs dans ceux qui font de plus de percées dans la recherche, c'est des acteurs privés. Mais en France, on s'est dit, tiens, le gouvernement s'est dit, on va créer une IA. Et ils ont créé un organisme qui s'appelle OpenLLM, qui avait pour but de créer son IA générative open source, un peu comme Mistral ou Meta. Sauf que cette fois, c'est un organisme public et ils ont créé leur IA qui s'appelle Lucy. Et en fait, ils en étaient très fiers quand ils l'ont sorti. Et ça a été un énorme flop. Il y a eu énormément d'exemples où en fait, Lucy était très mauvais. Ça a fait un flop. Je pense que c'était pas forcément mérité, honnêtement, et qu'on doit pas se moquer des gens qui essayent de créer des choses, notamment dans l'IA générative. C'est extrêmement difficile. Et évidemment qu'il y a tellement de cas d'usage que lorsque vous lui posez des questions en particulier, bah ça peut avoir des réponses mauvaises. Je pense qu'ils se sont un peu emballés parce que Lucy avait peut-être des réponses assez bonnes sur certains points, mais c'était pas totalement testé et peaufiné. Donc l'IA Lucy de OpenLLM liée au gouvernement français qui a fait un énorme flop. Donc je pense qu'ils vont revoir leur copie, nous faire quelque chose de nouveau. Moi, je leur conseillerais de garder l'argent public, d'économiser de l'argent public, mais par contre, de réduire les charges sur les entreprises afin que la recherche privée explose et que des entreprises comme Mistral puissent recruter les top talents sans qu'ils partent tous aux États-Unis en les payant extrêmement bien. Voilà pour Lucy, voilà pour les concurrents d'OpenIA, j'espère que j'en ai pas oublié. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié. Et je vous rappelle de mettre 5 étoiles à ce podcast si cet épisode vous a plu. Je vous remercie et on se voit dans un prochain épisode. C'était Guillaume. Ciao.